Et nous sommes très heureux avec Léa Salamé de recevoir ce matin, au lendemain de la journée de commémoration du 11 novembre et de l'ouverture du sommet pour la paix de Paris, de recevoir donc le secrétaire général de l'ONU. Vous pourrez dialoguer avec lui en nous appelant au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux et l'application France Inter. Antonio Guterres, bonjour.
Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous.
Et un grand honneur de vous recevoir. Il y avait hier, à l'Arc de Triomphe, beaucoup d'émotions, de gravité, sans doute aussi d'inquiétude chez les chefs d'État et de gouvernement rassemblés pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale. Un siècle plus tard, le président Macron l'a dit clairement, réapparaissent en Europe et dans le monde des phénomènes comme le nationalisme, le chacun pour soi, la fermeture des frontières. 1918-2018, est-ce que vous voyez des résonances claires entre ces deux époques ?
Sans doute. Bon, nous ne sommes pas dans la même situation. Il faut qu'on se rappelle qu'en 1914, l'Europe était multipolaire, mais sans aucun mécanisme multilatéral de régulation, de gouvernance. Et la multipolarité sans gouvernance multilatérale génère le conflit. Aujourd'hui, nous avons, en tout cas, un certain nombre de mécanismes multilatéraux de gouvernance, même si le Conseil de sécurité est largement paralysé, même si l'Organisation mondiale de commerce a des difficultés qui sont connues. On n'est pas dans la même situation, mais il y a des risques semblables.
Lesquels ?
On voit, notamment dans le commerce international, une tendance aux décisions unilatérales, avec des conséquences qui peuvent mener à un conflit commercial avec des conséquences très négatives sur l'économie mondiale. On voit une paralysie du Conseil de sécurité qui fait que des guerres comme en Syrie, au Yémen, puissent traîner sans que la communauté internationale soit capable de les résoudre. Et on voit un malaise dans de larges secteurs des opinions publiques parce que ils sentent que la globalisation a laissé beaucoup de gens
sur le côté de la route, sur le bord de la route.
Ils sentent que les mouvements migratoires ou de réfugiés ont été très mal gérés et par les gouvernements et par la communauté internationale. Ils sentent qu'il y a des menaces. Ils sentent que les réponses politiques traditionnelles ne sont pas efficaces, que la gauche et la droite traditionnelles sont incapables de gérer les problèmes actuels. Et ça fait qu'il y a de plus en plus des gens qui ne croient plus au système et qui vont derrière les approches populistes, les approches xénophobes, ce qui crée naturellement une grande inquiétude et ce qui fait que la vie politique actuelle comporte des dangers réels auxquels il faut répondre pas seulement avec la polémique. C'est très facile de faire la polémique avec les populistes, mais ce qu'il faut, c'est d'adresser les problèmes de fond. Ce qu'il faut, ce sont des solutions pour permettre une régulation des mouvements migratoires efficace. Ce qu'il faut, c'est permettre aux gens de comprendre que ce qui le développement technologique ou la globalisation laisse derrière ont des réponses des États, des gouvernements, qu'il y a une protection sociale qui fonctionne.
On va en parler.
Qu'il y a un effort de réintégration dans la société qui fonctionne. Il faut que les gens comprennent que ceux qui sont responsables de la conduction de la vie politique nationale et internationale sont là à leur écoute et veulent résoudre leurs problèmes.
Bien, ça c'est un tableau parfait de l'état du monde. Maintenant, si vous me permettez une question sur l'image d'hier. Cette image où on voit des chefs d'État qui montent les Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe, unis ensemble à pied, et de l'autre côté, Donald Trump et Vladimir Poutine qui arrivent seuls dans leur voiture blindée. Est-ce que cette image résume le moment ?
Mais les superpuissances ont toujours agi d'une façon différente. Ça, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Ce qu'il nous faut, à mon avis, c'est créer des conditions pour que, avec la réforme des Nations Unies, avec la réforme des autres organisations internationales, on puisse avoir une globalisation plus juste et on puisse avoir un système de rapports internationaux plus équilibré. Et là, je dis, il faut reconnaître en tout cas qu'on n'est plus dans le monde bilatéral, on n'est plus dans le monde unilatéral, on va vers un monde multilatéral, multipolaire, mais on n'est pas encore là. Il y a un monde un peu chaotique où il y a encore une mémoire de la guerre froide, une mémoire de l'hyperpuissance américaine des années 90. J'espère que progressivement, on puisse entrer dans un monde multipolaire, mais un monde multipolaire, je le répète, avec des institutions de gouvernance globale qui puissent créer des conditions pour la paix, le développement et les droits de l'homme.
Ça, c'est très bien. Mais ça, Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, vous répond en vous disant que le multilatéralisme a été une mauvaise chose pour les États-Unis. Quand vous avez la représentante des États-Unis qui finance le quart du budget de l'ONU, qui dit que le multilatéralisme que vous défendez, Antonio Guterres, a été une mauvaise chose pour son pays, pour les États-Unis. Comment voulez-vous continuer à défendre les choses? Et pour parler clairement et concrètement, vous avez été élu à peu près au même moment où Donald Trump a été président américain, c'est-à-dire il y a 2 ans. Comment ça fonctionne avec Trump quand Trump n'aime pas l'ONU?
Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on réussit à faire ensemble, même s'il y a d'autres où on n'en est pas d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est démontrer que ce n'est pas vrai. J'ai donné hier un exemple. Opération Centrafrique. Travail des casques bleus. Protection des populations civiles. Création de conditions, espérons-le, pour une solution politique. Si ça est fait par un pays comme les États-Unis, ça coûte aux contribuables américains 10 fois plus cher que une opération des Nations Unies. Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout que le multilatéralisme ne soit pas positif pour les intérêts des États-Unis aujourd'hui.
Vous dites que le retour,
cette réponse concrète, c'est la démonstration pratique des choses qui peut nous aider.
Mais Antonio Guterres,
je n'entrerai jamais dans une polémique stérile. J'essaierai de faire la démonstration de comment le multilatéralisme aujourd'hui reste utile, même pour les puissances.
Mais c'est une critique sur le fond, c'est une critique conceptuelle qui est adressée. Là, vous répondez sur le rapport qualité-prix, en quelque sorte.
Quand vous entendez Trump, nous n'abandonnerons jamais la question de l'intervention. C'était exactement basé sur la question qualité-prix.
Oui, et puis sur la souveraineté américaine qui ne sera jamais abandonnée à une bureaucratie non élue et irresponsable. C'est ça.
Ça, c'est une vieille question.
Oui,
dès il y a longtemps que les Américains ont toujours dit que l'autorité du Sénat des États-Unis ne pouvait pas mettre en question par la loi internationale. Les États-Unis n'ont jamais signé la Convention des droits des enfants, la Convention des droits de la mère. Ça, c'est une vieille question. Et ce qu'il nous faut, c'est travailler vers une réforme des institutions multilatérales pour les rendre plus efficaces et pour finalement faire comprendre aux gens. Parce que c'est un débat avec les opinions publiques, c'est un débat avec le peuple, faire comprendre aux gens que c'est dans l'intérêt des puissances. Et surtout quand les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance, quand le monde devient plus équilibré, il faut que nous soyons capables.
Le monde est plus équilibré.
Il faut que nous... Ah, mais sans doute, si vous comparez les années 90, j'étais au gouvernement. À ce moment-là, nous avions un problème, comme vous le savez, à Timor-Oriental. La question décisive pour résoudre le problème, c'était de convaincre le président des États-Unis, il faut une intervention. Une fois convaincu le président des États-Unis, à Timor-Oriental, le problème est solutionné. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a toute une variété de puissances dans le monde, même des pays comme la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ont une influence bien plus grande dans les questions régionales. C'est un monde qui se fragmente et c'est pour ça que le multilatéralisme devient essentiel, même pour un pays comme les États-Unis. Et c'est ça qu'il faut expliquer au public américain et pas seulement aux dirigeants publics et pas seulement aux dirigeants politiques.
Une question sur la Syrie, vous l'avez dit vous-même, le Conseil de sécurité a bloqué les choses, était gelé sur la Syrie pendant 7 ans. L'ambassadeur de France auprès de l'ONU a déclaré il y a quelque temps: prenons garde que la tragédie syrienne ne soit pas aussi le tombeau des Nations Unies. Après 7 ans de guerre, 360 000 morts, est-ce que la Syrie n'est pas devenue d'une certaine manière le tombeau de l'ONU?
Je crois pas. Il faut pas considérer que la responsabilité de ce qui se passe en Syrie est une responsabilité des Nations Unies. Les Nations Unies sont un univers. Si vous voyez l'action extraordinaire d'UNICEF ou du Programme Alimentaire Mondial en Syrie, c'est une réponse humanitaire fantastique qui est donnée aux besoins les plus élémentaires du peuple syrien.
C'est vrai, mais du côté politique.
C'est pas la Syrie qui est responsable. C'est pas les Nations Unies qui sont responsables de ce qui se passe en Syrie. Ce sont les différents pays, les différents le régime syrien premièrement, et les différents pays qui se sont mêlés de cette affaire. Ce qui est vrai, c'est que un des éléments des Nations Unies, le Conseil de sécurité, reste paralysé face au conflit syrien. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et ça nous cause, à nous, qui travaillons dans les Nations Unies, des préoccupations énormes, parce que beaucoup de fois, pour le citoyen commun, dans les villes françaises, on pense c'est les États, ce sont les Nations Unies, quand, en effet, c'est le conflit entre les puissances au sein du Conseil de sécurité qui ne permet pas la résolution du conflit syrien.
Stéphane de Mistura, le monsieur Syrie de l'ONU, a décidé de démissionner. Il quittera ses fonctions à la fin du mois. Il a dit, c'est la guerre, en parlant de la Syrie, c'est la guerre la plus cynique que j'ai jamais vue. Est-ce qu'une Syrie sans Bachar el-Assad est de la science-fiction, d'après vous, Antonio Guterres?
Non, c'est... En Syrie, nous avons toutes les contradictions du monde. Nous avons la mémoire de la guerre froide. Nous avons la contradiction entre le sunnisme et le chiisme. Nous avons les contradictions des puissances régionales avec une influence croissante dans la zone, et la Turquie, et l'Arabie Saoudite, et l'Iran. Nous avons en même temps les problèmes du peuple syrien lui-même, qui a un régime dictatoriel et où il y a des différences ethniques, des différences religieuses et surtout une volonté de beaucoup de Syriens, de la plupart des Syriens, d'avoir de la liberté. Alors, toutes ces contradictions sont là. Le drame, c'est que les contradictions extérieures largement empêche la capacité des Syriens de résoudre eux-mêmes leurs problèmes.
Il y a une autre guerre terrible qui dure maintenant, c'est celle au Yémen. Il y a eu un déjeuner hier avec Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Poutine et vous-même, Antonio Guterres. Vous avez abordé le sujet de la guerre au Yémen. Vous avez dit il y a peut-être une fenêtre de tir pour résoudre cette guerre. Et on voit sur tous les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information les images atroces qui viennent de la famine, notamment des enfants au Yémen. Il semblerait que le principe d'une intervention soit acquis pour mettre fin au conflit. Est-ce que vous nous le confirmez? Est-ce qu'il pourrait y avoir une intervention pour arrêter la guerre au Yémen?
Les choses ne sont pas encore claires. Il y a, à mon avis, un paradoxe au Yémen. Nous sommes face à une situation humanitaire absolument désastreuse. Aujourd'hui, les Nations Unies aident, du point de vue alimentaire, 8 millions de Yéménis. On peut facilement arriver l'année prochaine à 14 millions et on pourra avoir la pire famine des dernières années dans le monde. Alors, c'est une situation absolument...
Mais l'aide, pardonnez-moi, avant d'arriver à la politique, l'aide aux enfants, ces images d'enfants malnutris qu'on voit, qu'on avait presque perdu l'habitude de voir.
Non, c'est une...
Mais comme, votre aide humanitaire, elle arrive aux enfants?
Non.
Ou c'est, qu'est-ce que c'est que c'est? Comment on peut aider le Yémen?
Elle à tout le monde, mais elle arrive à 8 millions de personnes. Sans cette aide humanitaire, nous aurions eu déjà au Yémen, une famine avec une dimension inconnue pendant ce siècle. En tout cas, il y a cette situation dramatique. Mais je crois qu'il y a une opportunité de faire comprendre aux acteurs directs de ce conflit et aux outils et au gouvernement Hadi et aux Émirats et à l'Arabie Saoudite que finalement c'est une guerre que personne ne gagne, que nous sommes dans une situation d'impasse et qu'il faut absolument une solution politique. Et je crois qu'il y a un certain nombre de conditions extérieures, y compris le fait que et les États-Unis et la Russie et même quelques puissances de la région le comprennent. Il y a à mon avis une hypothèse qu'on puisse commencer, et notre représentant spécial y travaille tous les jours.
Mais ça prendrait quelle forme?
Qu'on puisse commencer un débat. Il y a déjà une plateforme d'encadrement d'une solution qui est sur la table, qui est présentée aux différentes parties. La première réaction, on a été relativement positif, mais à mon avis, on reste figé avec la situation de Hodeïda. C'est-à-dire, il faut absolument cesser le feu, il faut arrêter les hostilités, et pour le moment, la coalition semble déterminée à la conquête d'Odeida, ce qui, à mon avis, n'a pas encore permis un véritable commencement d'une solution politique.
Et
moi, je crois qu'il faut arrêter les combats. Je crois qu'il faut commencer le débat politique et qu'il nous faut préparer à une réponse massive humanitaire pour éviter le pire l'année prochaine.
Donc quand on dit que le principe d'une intervention semble acté, quelle est la forme de cette intervention, Antonio Guterres? C'était ça ce qu'on sait du déjeuner d'hier. Est-ce que vous le confirmez ou pas? Et si oui, sous quelle forme?
Je crois qu'il y a un consensus et des États-Unis et de la Russie et de l'Europe et de beaucoup des États de la région que finalement, c'est le moment d'arrêter ce conflit. C'est une guerre, je l'ai appelée une fois une guerre stupide, vous avez parlé d'une guerre cynique, c'est une guerre où personne ne gagne, et c'est une guerre qui crée des désastres humanitaires absolument inacceptables. Et je vois que aujourd'hui, toutes les puissances sont d'accord qu'il faut l'arrêter. Je crois que les circonstances pourront le permettre. J'espère que les acteurs directs du conflit puissent le comprendre et j'espère que ça se passe le plus rapidement possible. Parce que si, par exemple, à Hodeïda, il y a une destruction du port, bon, ça, après, engendrerait une situation absolument catastrophique.
Autre sujet différent, autre sujet, la COP24. Le climat, ça commence le mois prochain. On le sait, Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Est-ce que vous croyez vraiment, Antonio Guterres, que la société civile, que les entreprises privées, que les ONG peuvent se substituer aux États et notamment aux États-Unis, à l'absence des États-Unis pour régler cette question du climat?
Bon, ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, on a vu une réaction extrêmement positive à la décision du gouvernement. Et nous voyons en effet que et la société civile, et les entreprises, et les villes nous donnent des indications qui, à mon avis, peuvent conduire au fait que les États-Unis seront capables, en tant que pays, de correspondre aux engagements qui ont été faits à Paris. Mais la question est plus large. Et ce serait une erreur de la limiter à la situation aux États-Unis. Ce que nous avons, c'est que le changement climatique est en train d'aller plus rapidement que nous tous. Les conséquences sont plus graves qu'on ne le pensait. Les faits sur le terrain sont plus graves que les prévisions scientifiques les plus pessimistes. Nous le voyons partout. Les désastres naturels, ce qui se passe en Arctique, la situation des glaciers, on le voit partout. La température de la mer. Et en même temps, je crois que la volonté politique un peu partout dans le monde a diminué. Les gens pensaient à Paris, on a réussi un accord, c'est fait. Non, ce n'est pas fait. L'accord de Paris doit être concrétisé et on est loin de garantir cette concrétisation.
Doit être tenu, tout simplement, parce que les engagements de Paris d'il y a 2 ans ne sont pas encore tenus par les États.
C'est ce que je vous dis. C'est ce que
je
vous dis.
Même la France.
Les engagements, c'est une question générale. Il n'y a pas de volonté politique suffisante. Les engagements de Paris ne sont pas réalisés et plus grave que ça, Paris en soi-même n'était pas suffisante. C'est-à-dire, si les promesses faites à Paris puissent correspondre à la réalité, on aurait une augmentation de température supérieure à 3 degrés en fin de siècle. Il nous faut des engagements plus forts. Il nous faut des compromis plus forts. C'est pour ça que j'ai convoqué un sommet pour l'année prochaine, pour convaincre les États en 2020 à présenter des engagements qui puissent effectivement réduire la croissance de la température à 1,5 degré. Et nous savons que même ça aura des conséquences extrêmement difficiles.
Monsieur...
Il y a en même temps une situation plus grave que prévu et une absence de volonté politique plus grave que je ne le pensais il y a un an.
Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les tensions renaissent dans le monde, on l'a dit. Les populistes qui arrivent au pouvoir ne sont en général pas de fervents défenseurs de l'ONU, c'est le moins qu'on puisse dire. Les institutions multilatérales tombent les unes après les autres, soit qu'elles sont affaiblies, soit qu'elles sont paralysées. Est-ce qu'il y a une seule raison d'espérer ou de nous réjouir?
Pas de nous réjouir. Bon, premièrement, elle ne tombe pas comme ça.
Elle se paralyse.
Il y a des difficultés, mais si vous regardez, par exemple, l'aide humanitaire produite par les Nations Unies, c'est une réponse fantastique par le CICR. C'est une réponse fantastique au problème d'aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui se font. Nous sommes aujourd'hui en train de combattre l'Ebola au Congo, au milieu d'un conflit, avec un courage extraordinaire d'un certain nombre d'organisations multilatérales qui travaillent ensemble. on oublie que le multilatéralisme est en action et que le multilatéralisme continue à résoudre beaucoup de problèmes qui existent dans
mais
le monde.
Mais on voit des machines se gripper.
Mais c'est vrai qu'il y a, dans certaines opinions publiques, à cause de cette vision populiste et à cause des problèmes non résolus du passé, un certain scepticisme sur la réponse multilatérale.
Alors, quelle c'est raison, la raison d'espérer?
C'est quelle la raison pour laquelle il nous faut réformer les institutions multilatérales. Il nous faut les faire les plus efficaces. Et c'est là l'engagement très fort que moi-même, j'ai assumé dans la direction des Nations Unies. Il nous faut des Nations Unies plus proches du peuple, plus capables de parler avec la société civile, avec les opinions publiques directement et qui ne soient pas complètement encadré dans le débat intergouvernemental.
Allez.
Parce qu'il nous faut convaincre les peuples à convaincre leur gouvernement que c'est pas l'unitarisme qui peut résoudre les défis dramatiques et des mouvements de population et des changements climatiques ou de la paix.
Allez, on passe au standard de France Inter, la parole aux auditeurs. Bonjour Serge et bienvenue.
Oui, bonjour, merci, merci d'avoir pris la peine de m'écouter. Monsieur Guterres m'a pas du tout rassuré dans ses dernières phrases là, puisque quand il parle de l'effort humanitaire de l'ONU, je suis aussi troublé que quand j'entends Monsieur Macron parler de la France comme une terre de paix, etc. Je comprends pas le concept de forum de la paix qui rassemble des gens qui sont des marchands d'armes, des assassins par procuration. Je ne comprends pas. L'Europe vend 25% des armes qui sont divulguées dans le monde, juste derrière les États-Unis. Il y a la Chine évidemment, mais on va pas la compter. On va vous faire grâce de ça. Je sais pas. C'est incompréhensible. Quand vous dites par exemple qu'il y a un effort colossal de l'ONU vis-à-vis de l'aide humanitaire, mais il suffirait de désarmer et vous auriez plus besoin d'intervenir humanitairement. Je sais pas.
Merci Serge. Bien compris Serge, merci. Question donc et réponse d'Antonio Guterres.
Premièrement, les Nations Unies ne sont pas des fabricants d'armes, ce sont les pays eux-mêmes qui le sont. Et c'est exactement à cause de ce problème que nous avons lancé, pour la première fois dès le commencement des Nations Unies, un agenda pour le désarmement, avec trois volets. Un volet qui concerne les armes de destruction massive, le nucléaire, le chimique. Un volet qui concerne les armes conventionnelles et surtout l'utilisation des armes conventionnelles dans les villes où le plus de morts nous avons aujourd'hui, mais aussi les petites armes, et un troisième volet sur, je dirais, les armes du futur. Il y a une chose pour moi absolument claire, il nous faut interdire l'utilisation d'armes autonomes capables de tuer des gens par elle-même.
Reconnaissance faciale, un drone, et vous prenez
c'est ça.
Une bombe sur la tête ou un missile.
Le thème du désarmement, nous l'avons mis sur la table, c'est un thème central. Sans effectif désarmement, nous ne serons pas capables de garantir que la paix puisse être stable.
Une question d'Anne sur l'application de France Inter. L'Aquarius, vous devez le connaître, l'Aquarius, bateau de sauvetage humanitaire, est contraint de rester à quai en France tant qu'un nouveau pavillon ne lui sera pas accordé. Pendant ce temps, la tragédie continue en mer Méditerranée. Que peut faire le secrétaire général des Nations Unies pour l'Aquarius?
Bon, j'ai déjà fait quelques démarches
pour qu'il ait un pavillon,
pour qu'on puisse trouver une solution pratique de ce
avoir un pavillon.
Avoir un pavillon, mais le problème est un problème plus sérieux. Je crois qu'il nous faut une stratégie globale qui puisse permettre, premièrement, que la coopération au développement aide les populations à pouvoir avoir un futur chez eux, ce qui n'est pas le cas. L'aide au développement telle qu'elle se dessine aujourd'hui, quelquefois, contribue à déenraciner les populations. Deuxièmement, il nous faut une bien plus forte capacité de combattre ensemble les trafiquants, les passeurs, les criminels qui violent les droits de l'homme d'une façon terrible. Et troisièmement, il nous faut créer des opportunités d'immigration régulière, dont d'ailleurs les pays européens en ont besoin. Je viens de lire sur mon pays un rapport qui dit « il nous faut absolument croissance de l'immigration parce que notre marché d'emploi ne permet plus de résoudre nos problèmes économiques. Alors, avec plus de migration régulière, un combat bien plus fort contre les trafiquants et une aide au développement capable de fournir des opportunités aux gens pour qu'elles puissent trouver le futur chez eux, on sera dans une bien meilleure situation pour s'adresser à ce problème.
En même temps,
il faut résoudre les problèmes concrets des bateaux,
comme
l'Aquarius, etc. Et il faut le faire.
Une dernière question rapide, Antonio Guterres. Vous revenez souvent vous ressourcer dans votre pays, au Portugal, et c'est bien normal. Comment le secrétaire général de l'ONU échappe à la saudade, à cette mélancolie si particulière qui porte sur ce qui aurait pu avoir lieu mais n'a pas existé?
Vous savez, j'aime mon pays de plus en plus. C'est un pays où le populisme n'a jamais conquis des voix. C'est un pays où il y a quelques années, nous avions une situation économique très difficile, l'austérité qui nous avait été imposée par les circonstances, mais aussi par les institutions internationales, et où il y avait un chômage qui correspondait plus ou moins au nombre d'émigrés. Et le thème des migrations n'a jamais été un thème dans le débat politique portugais. Pour une raison très simple, parce que les forces politiques traditionnelles, le mainstream de la politique, ont toujours assumé une position positive contre la xénophobie, pour la diversité. Et ce consensus entre le centre-droite et le centre-gauche n'a pas permis au populisme d'émerger.
Donc pas de mélancolie.
Beaucoup de fois, ce qu'on voit, c'est que les forces politiques centrales, à cause du peur de perdre des voix, suivent les extrémistes et ça ne fait que donner aux extrémistes une légitimité qui leur permet de gagner de plus en plus des voix dans beaucoup de sociétés.
Voilà, le Portugal remède à la mélancolie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'avoir été ce matin au micro de France Inter.